Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
18h59 sur RMC, bien sûr, toujours dans Rotten Régal pour cette deuxième heure avec oui. François Pinet, avec Jean-Michel Larquet. Allez François, maintenant on a fait le tour là, de cette semaine catastrophe. Maintenant on va se projeter sur le week-end.
Un magnifique week-end en perspective, en Ligue 1 aussi en Europe. Hein, ne manquez pas.
J'ai hâte d'entendre mes correspondants.
Ouais, dans 30 minutes, il y aura aussi le week-end de foot européen avec Fred Hermel. On va parler de la Ligue 1, on va parler de Karim Benzema aussi. D'ailleurs. Encore buteur cette semaine. On sera aussi avec Julien Laurence pour des infos sur City avant d'affronter le PSG. C'est dans 5 jours. PSG
Kevin De Bruyne.
En Ligue des Champions. Ouais, ça a peut-être évolué d'ailleurs. Il y aura peut-être des nouvelles infos.
Ça évolue tous les jours. C'est bizarre. Et à force, je vais avoir raison.
On va en parler tous les jours jusqu'à mercredi. Bah évidemment.
Je pense que mercredi soir, il sera au parc.
Évidemment. Inscrivez-vous aussi tout de suite pour le quiz de Rotten Régal. Team Jérôme ou Team Captain. Ouais, bah vous connaissez
ce quiz. Bah, c'est vrai que depuis 2021. Jean-Michel est dans le
pas beaucoup de victoires. Bon, on vous fait le 32-16 en tout cas pour vous inscrire. Et tout de suite, comme tous les vendredis, 19h, le multiplex de Rotten Régal.
RMC Rotten Régal.
Et la casquette Tissin, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Tissin.
Le multiplex.
Oh, j'en ai des frissons.
Il y a de ce commentaire là, le dernier.
Le dernier, mais vous en avez rajouté un au milieu.
C'était celui de Bastia. Bastia.
T'as vu en Corse. C'était magnifique. Comme des fous.
Magnifique. Pour ce multiplex, on accueille le toujours leader jusqu'à peut-être dimanche. Jean Baumel à Lille, avant Lyon-Lille. Salut Jibo.
Ça peut mal se terminer. Bonsoir François. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Captain. Bonsoir à tous.
Édouard Gey, notre correspondant à Lyon, est là. Salut Édouard.
Salut, c'est bizarre que depuis le temps on n'ait pas trouvé autant d'emphase sur un but de Jérôme Rotten de ma part. C'est vraiment bizarre.
Ah bah là tu pouvais pas t'enflammer. En plus, on a vu l'animosité qu'il y avait entre Lyon et Monaco. Alors imagine quand avec Monaco je marquais à Lyon. Ouais. Là,
la tête dans le seau, Edouard.
Puis fois. En plus, t'as jamais supporté que je ne vienne pas à Lyon.
En embuscade, Clément Brossard, notre correspondant sur la Côte d'Azur, avant Angers-Monaco. Salut Clément.
Salut François, salut Captain, salut Jérôme. J'étais en train de regarder les courses prochaines, la Cagnes-sur-Mer, pour essayer d'y faire un tour, vu que c'était l'endroit préféré de Jérôme Rotten.
Appelle-moi, je vais te donner 2-3 tuyaux.
T'inquiète, il a des adresses. Et puis, retrouve Nico Paolorsi à Bordeaux. Rebonsoir Nico.
Rebonsoir. Je profite de chaque multiplex parce que ça se trouve dans 2 semaines c'est terminé.
Multiplex
Liga, ça sera peut-être plus
non,
pour.
Avec la vente de Ben Arfa, ça va s'arranger.
Non, mais on le fait.
On va nous parler du maire. Ça
on le fait bosser là. Il va réussir à maigrir.
T'as vu. Lyon-Lille, c'est donc dimanche l'affiche de la 34e journée. Match capital pour l'Olympique Lyonnais, 4e du classement, qui peut se retrouver en cas de défaite à 6 points du LOSC. On va commencer par les Lillois avec toi, Edouard. Est-ce que tu sens que tes Lyonnais peuvent gérer cette pression énorme?
Bah écoute, ça coûte pas bien plus cher d'être positif, hein, donc je vais l'être parce que je vous vois venir. Tout allait bien en 2020 et puis depuis 2021, bah ça va moins bien pour Lyon. On est passé du vert à l'orange et désormais on est dans le rouge, hein, quand on voit ces 17 places sur le podium jusqu'au 3 avril et puis depuis le 3 avril, cette 4e place désormais. Les Lyonnais qui ont été premiers, deuxième, troisième, quatrième, donc c'est une longue descente. Donc c'est inexorable. Je vous vois venir, mais je me dis que Lyon a quand même montré qu'il s'est géré deux nouveaux styles de jeu. On avait connu le 4-3-3, on a connu le 4-2-3-1 face à Angers et puis mercredi face à Monaco. Même si au résultat ça s'est pas terminé dans le contenu, c'était quand même assez intéressant le nouveau schéma de jeu. Et puis sans faire preuve d'optimisme BA, je trouve qu'il y a quand même du mieux en sachant que l'OL devait gérer et se relever de la déroute face au PSG. Et puis j'ai bien aimé tout à l'heure, c'est tout chaud, hein, la conférence de presse de Mattia De Ciglio notamment, qui fait l'effort, lui en français, hein, lui qui est en France depuis très peu de temps.
Oui, ça, c'est bien.
Bah, il a utilisé les termes de ne pas se précipiter dans le match de dimanche. Nous avons du temps pour marquer. Il faudra être calme et on a de l'expérience pour avoir ce calme-là. Donc j'ai l'impression qu'on a déjà, du côté de l'OL, switché de la déception, de la frustration de mercredi soir à mettre tout en forme pour être motivé pour le match de dimanche.
Moi, je le souhaite pour Lyon, en tout cas, qu'ils arrivent à trouver ce calme-là. Mais je suis sceptique sur plein de choses. Déjà, sur l'attitude de Rudy Garcia, que ça soit pendant les matchs et après les matchs ou avant les matchs en conf de presse, mais ça c'est pas nouveau, tu vas me dire, mais il transmet ça à ses joueurs. Moi, j'ai trouvé une équipe de Lyon contre Monaco, en effet. Edouard a raison, dans un système qui était différent, qui ressemblait au système de la Ligue des Champions, ouais. Quand ils sont allés jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions à Lisbonne, avec ses trois défenseurs. L'animation ressemblait à ça. La première mi-temps était très cohérente, mais il y a de l'excitation, il y a le manque de sérénité. Et des joueurs qui s'énervent, à commencer par mon ami Dubois, que tu entends partout, sur le terrain, aboyer sur ses coéquipiers, souvent sur l'équipe adverse. Dès qu'il y a un coup reçu à l'opposé, il vient sprinter et puis il vient faire le justicier. Je pense que c'est des attitudes qui montrent quand même que la pression est énorme à Lyon. Elle existe, cette pression, elle existe sur les trois autres clubs qui luttent là dans le haut du tableau. Mais à Lyon, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à la gérer, et cette pression-là, et que c'est néfaste, Jérôme, sur l'ensemble d'un match.
Jérôme, il faut être peut-être plusieurs pour mettre une telle pression. Et ma question est toute simple à Doudou. Doudou, est-ce que le président a continué à dire, peut-être à juste titre, que la Ligue des Champions était indispensable, que c'était vital, qu'il ne l'avait pas eu la saison dernière, qu'il fallait à tout prix l'avoir cette saison? Est-ce que en fait, c'est pas uniquement l'entraîneur, est-ce que c'est pas l'ensemble du club qui met la pression sur les joueurs et sur l'effectif?
Non, parce que Jean-Michel Aulas est moins présent au quotidien. On l'a vu lors du match face à Angers dans un petit film inside, comme on dit dans notre jargon, sur les réseaux sociaux du club, où il avait inscrit un discours en disant « Croyez en vous, parce que moi je crois en vous ». Il parlait aux joueurs, mais pour le reste, il a confié dans cette nouvelle organisation justement le quotidien à Juninho, à Vincent Ponceau, le directeur football du club. Donc il est moins là, mais clairement…
Et tu ressens de la pression sur ces gens-là? Plus que d'habitude.
Alors peut-être que Juninho est encore très joueur dans son approche des matchs, donc très chaud, on va dire. Il faut que peut-être qu'il prenne un peu de froideur, hein, justement dans l'approche de ces matchs. Après, non, on n'est pas comme dans les grandes années où, vous savez, il y avait, je crois que c'était un match à Valenciennes, hein, Djibo, où vous savez l'arbitre qui avait fait soi-disant une faute, et du coup c'est une faute à 20 millions d'euros. Je me souviens de la formule cette décision arbitrale. Je ne sais plus exactement laquelle, mais avait finalement empêché Lyon de gagner, et donc sur le moment d'être sur le podium. Je crois qu'à la fin il l'avait été, et donc en Ligue des Champions on n'est pas dans cette pression là c'est une pression plus diffuse, avec un groupe peut-être qui se dit voilà, comme je vous le disais, on est passé du vert à l'orange, et désormais quelque part on est dans le rouge parce qu'on est au pied du podium, la place du je vais pas le dire, mais en tout cas, pour une équipe qui était première, c'est pas la même sensation dans le groupe, j'imagine, que bon, après c'est le contraire. Non, qu'à Monaco, qui est dans le sens inverse.
Après, il reste des matchs. Ils sont qu'à 3 points. Là, ils ont l'avantage. Et c'est un avantage de jouer.
Ils peuvent tout perdre en une semaine.
Non, mais on est d'accord. De toute façon, on le dit depuis maintenant 2 journées. Ils ont réussi à gagner à l'extérieur, à gagner à domicile. Ce que je veux dire, c'est que le moindre faux pas va être quasiment définitif pour l'Olympique Lyonnais. Et en effet, déjà, le titre va s'échapper et limite la troisième, du moins les trois premières places aussi. Donc tout ça, ça rajoute une pression supplémentaire, mais on la ressent. Puis, alors Edouard, moi je te dis ça, c'est pas anodin. Je te dis, je te parle de Juninho. Je sais que la réaction de Juninho après le match contre Monaco a été très dure envers certains joueurs monégasques. Et ça montre quand même que la pression est énorme. Mmh.
Ça a mal été perçu, hein. D'ailleurs, je me permets, messieurs, sur le banc monégasque, les retours que j'ai à Monaco, c'est que le banc lyonnais était extrêmement tendu depuis le début de la rencontre, et ça a pas plu notamment à Niko Kovac, qui est d'habitude très calme et qui pour la première fois de la saison a un peu pété les plombs envers un des adjoints de Rudy Garcia, qui n'a pas supporté tout simplement que on insulte plus ou moins Sofiane Diop sur le tacle qu'il a reçu par Deschiglio, qui voudra d'ailleurs à Sofiane Diop quelques semaines à l'écart du groupe, puisqu'il a été victime d'une entorse sur ce coup-là. Donc voilà, à Monaco on se dit que Lyon a vraiment déraillé sur cette rencontre-là et monté un petit peu tout seul en pression.
Le déraillement est, moi je voulais juste poser la question, quand le déraillement a débuté, parce qu'après c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est à la 23e seconde sur le tacle de Folland, c'est ça, Folland, voilà. Donc si c'est là le premier coup, c'est voilà. Donc et là je n'ai pas toutes les clés de ce début de match pour savoir, mais c'est vrai que cette 23e seconde de ce match est importante.
Ça promet à Monaco Lyon la semaine prochaine,
ça va être, ça je peux te garantir que
risque d'être
chaud. J'ai aussi eu quelques infos là-dessus. Ils les attendent de pied ferme, les Lyonnais. Donc ça va rendre un match à Louis II. Celui-là, il ne va pas falloir le rater. Hein.
Avant de parler de Monaco, on va parler de Lille, puisque c'est le futur adversaire des Lyonnais. Lille qui se déplace à Lyon dimanche. Djibo, est-ce que pour toi, Lille est favori du coup de cette rencontre? On a parlé de cette défaite en Coupe de France qui a peut-être mis un coup sur la tête des Lyonnais.
Bah écoute, moi je trouve qu'ils ont des atouts quand même, les Lillois. Ils ont deux jours de récupération en plus par rapport à l'Olympique Lyonnais. Ils n'ont pas joué en milieu de semaine. Il y aura pas d'excuse en tout cas de fatigue ou de quoi que ce soit dimanche. Il y a pas d'absent majeur. Il y a que Timothy Weah et Jérémy Pied. Pour le reste, tout va bien. C'est la meilleure équipe à l'extérieur depuis le début de saison. Une seule défaite, c'était à Brest, 3-2, et après un match à Milan où il y a très peu de temps de récupération.
Ils veulent pas le rejouer, les Brestois, le match. Je te l'ai dit. Hein.
Non, mais c'était alors le hasard fait que au Groupama Stadium, il y a eu 4 matchs entre Lyon et Lille, 3 victoires pour Lille, un match nul. Bon, ouais. voilà, c'est bon, après ça veut rien dire.
C'est important de rappeler ça.
Oui, 3 victoires pour Lille et un nul.
Et oui,
sur les 4 matchs de Lille à Lyon dans le nouveau stade. Hein.
Lille, c'est la bête noire dans ce nouveau stade pour l'Olympique Lyonnais.
Même un petit peu avant.
Ouais. Donc ça, c'est aussi un élément important. Tout à l'heure, on faisait les paris sportifs avec Christophe Payet et on en parlait. Et j'en parlais. Je disais que c'était aussi une source de motivation pour les Lillois parce que c'est pas se prendre pour des cadors et sous-estimer cette équipe de Lyon. Mais quand une équipe réussit aussi bien dans un stade, ça te donne de la confiance, et la confiance, elle est souvent très utile sur ces gros matchs qui se jouent à pas grand chose. Djibo.
Si tu sens, voilà, que son discours est un petit peu, il prend beaucoup sur lui, hein, parce que les joueurs, on en voit très peu. Jonathan David est venu tout à l'heure, mais il a évoqué la possibilité, par exemple, de ce week-end, de dire, voilà, bah peut-être qu'à 23h dimanche soir, on sera quatrième. Je vous propose de l'écouter parce que, voilà, il sait que l'Europe c'est dans la poche, mais il sait aussi que ça peut être la quatrième place et l'Europa League.
Il y a très peu d'écart et que d'une journée à l'autre, on peut être premier, voire quatrième. On sera peut-être quatrième dimanche soir à 23h. Je le précise, le LOSC sera européen la saison prochaine. Il y a 16 autres équipes qui aimeraient être dans notre situation. Si aujourd'hui, le LOSC est à la bagarre pour la Champions League et pour le titre, c'est que les joueurs savent faire beaucoup de choses, mais mettons tout en œuvre pour se battre jusqu'au bout.
Alors c'est pas l'objectif prioritaire. Alors être européen, oui, mais c'était la Ligue des Champions, hein, l'objectif du début de saison. Il faut être bien clair. Quatrième, ça serait un petit échec quand même.
Voilà pour Lille, effectivement, qui d'après Djibo, par favori, c'est ton avis aussi visiblement,
non,
Jérôme.
Favori, j'ai pas dit favori parce que aller à Lyon comme ça, Lyon est pas une petite équipe.
Santé ou quoi ?
Mais
non, il faut pas. T'es pas d'accord.
Non, mais tu vois, la réaction de Jean-Michel, c'est exactement la réaction de la plupart des gens. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on sous-estime cette équipe de Lille. Lille, ils sont premiers du championnat. Non. Ils ont été gagnés au Parc des Princes. Ils ont très peu de défaites. La dernière, c'est à Brest. Il faut arrêter de penser que battre Lille, c'est facile quand même.
Rappelez-vous, contre le PSG.
En tout cas, 50-50, il n'y a pas. 50-50, il n'y a pas de favori. Et je peux te dire que là, on dit à Galtier, parce que Lyon est dans l'obligation, quasiment dans l'obligation, de gagner ce match-là.
Oui.
Parce que, oui, donc Lille est dans un fauteuil. Lille est dans un fauteuil. Ils peuvent.
Le match nul est déjà pour résultat pour Lille.
Bah, tu gagnes, t'es presque en Ligue des Champions pour Lille, si tu gagnes.
Exactement. Ouais. Donc, ils sont dans un fauteuil. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Lyon est dans une situation où ils ont obligation. Et cette obligation me fait penser que Lille n'est pas forcément le favori, même si, vous l'avez répété, sur les 4 derniers matchs, il y a 3 victoires et un nul à...
D'accord.
Au groupe, je ne sais même pas comment il s'appelle.
Le groupe Stadium.
Tu dis le stade de Lyon, on comprend.
Non, mais
le stade
de Lyon.
Oui. Ou dis le de stade Gerland.
Djibo, pour finir.
Ouais, un petit mot. Je pense que Jérôme, est comme moi, il pense à la situation de Lille avant le match contre le PSG.
Eh oui.
Et on a tous été bluffés parce qu'on les voyait mal. Et là, comme Lyon va devoir faire le jeu et prendre des risques, c'est là ils sont forts.
Ça peut aider Lille, effectivement. Le multiplex de Rotten Régal, c'est en ce moment, bien sûr, 19h13. Le tour des stades, tout de suite. 4 infos, une info chacun, messieurs. On va commencer par toi, Clément Brossard à Monaco. Des infos sur le groupe de Monaco avant d'affronter Angers.
Oui, je vous en parlais. La mauvaise nouvelle, c'est la blessure donc de Sofiane Diop, entorse de la cheville gauche, suite au tac de Chiglio face à Lyon. Il sera indisponible pour Angers dimanche et ce sera compliqué de le revoir contre Lyon la semaine prochaine. Jovetic est lui aussi incertain pour dimanche, touché au mollet. Les 4 cas Covid, à savoir Matazo, Matsima, Diata et Mio, font également partie des absents. Une bonne nouvelle tout de même avec Fabrias qui devrait être de retour dans le groupe pour affronter le SCO.
Très bien. Nico, Paul Orsi à Bordeaux. L'absence de Koscielny, gros coup dur évidemment pour les Girondins.
Ouais, gros coup dur parce que Laurent Koscielny, c'était le capitaine. Il est très bon sur le terrain. En plus, depuis le début de saison, c'est un des rares qui est vraiment à son niveau. Touché au tendon d'Achille, Laurent Koscielny, il pourrait manquer toute la fin de saison.
Aïe.
Et au-delà de voilà son absence sur la pelouse, c'est surtout dans le vestiaire, quelqu'un qui était vraiment en train de fédérer et d'essayer de reconsolider, de ressouder ce groupe bordelais. Donc bon, alors je te dis pas que ça marche, mais en tout cas il essaye.
Non.
Et pour le coup, c'est vraiment une perte pour les Girondins parce que la charnière centrale à Lorient, c'est Bayce Mecher.
Captain, vous voulez dire.
Est-ce qu'ils ont fait une réunion avec.
Ah bah on en parlera après.
Bien sûr. Alors j'en parlerai tout à l'heure, Captain, mais il y a eu une réunion suite aux derniers événements, bien
on
évidemment.
On en parlera évidemment dans un instant.
Table ronde.
Juste, on continue notre tour des stades avec Edouard et les infos sur le groupe Pionnet avant le choc face à Lille. Il y a une conférence de presse il n'y a pas quelques minutes maintenant.
Ouais, c'est des informations toutes chaudes avec bien Sinali Diomandé suspendu, ça on s'y attendait. Rudy Garcia qui nous a parlé de Jamel Benlamri, Tino Kadewere, Jason Denayer qui sont incertains. Mais il devrait être dans le groupe. Et puis là, on sort de l'entraînement et on n'a pas vu Lucas Paqueta qui n'est pas là aujourd'hui suite au coup de volant à la 23e seconde de ce fameux match Lyon-Monaco. Et il est très incertain pour le match de dimanche, touché à la cheville. Là, ça peut être un gros coup pour Lyon. Donc l'absence de Lucas Paqueta, c'est une info
après,
toute
le dernier
chaude.
Match, il n'a pas été bon.
Oui, mais bon, il a été tellement bon lors des les autres rencontres. Oui. Jean Baumel à Lille, est-ce que Lille peut compter sur le soutien de ses supporters?
Ah, bah écoute, une initiative très sympa qui s'est déroulée cette semaine avec l'autorisation bien sûr du club de pour les supporters d'accrocher les bâches avec des encouragements tout le long du chemin qui mène à l'entrée du domaine de Luchin. Donc on a vu des common Reisel, ça veut dire Lille en flamand, jusqu'au bout avec vous, marqué d'histoire 1946, 54, 2011 et bien sûr 2021, 10 ans après, ramener la coupe à la maison. J'aurais plutôt mis le trophée parce que c'est vrai qu'ils ont fait le doublé en 2010-2011, ouais. Mais là la coupe cette année ça va être compliqué.
Ok, je vous donne une petite info sur le Paris Saint-Germain. Marquinhos absent du groupe à Metz, qui jouera demain à Metz, le PSG. Ouais. En revanche, Verratti et Diallo sont bien présents dans ce groupe. On revient tout de suite dans le multiplex de Roten Régal avec des infos sur l'AS Monaco et donc sur les Girondins de Bordeaux. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC 18h-20h Roten Régal. François Pinet,
Jérôme Roten.
19h18 sur RMC, vous êtes dans Roten Régal. Allez, on continue. Ouais. François, le multiplex, là, il y a des bonnes infos, c'est croustillant. On a hâte d'y être.
Mais c'est un rendez-vous incontournable désormais, le multiplex de Roten Régal. Dans 15 minutes, il y aura aussi le multiplex européen.
Il faut que Jean-Michel se lâche un peu
se
plus.
Parce un peu plus.
Que là, j'ai eu l'impression d'entendre Zinedine Zidane. Je comprends qu'il le protège. Hein.
sur le 50-50 entre Lille et Lyon.
Lyon, non, il n'y a pas de favori, c'est 50-50. Lyon peut gagner, Lille peut gagner.
Bon, je vous rappelle que dans 15 minutes, c'est le multiplex européen. On ira en Espagne pour parler de Benzema, en Angleterre aussi, bien sûr, à 5 jours de City Paris Saint-Germain. On retourne à notre multiplex donc de la 34e journée de Ligue 1 avec Edouard Gey, Jean Baumel, Nico Paul Orsi et Clément Brossard. Justement, Clément, on va parler avec toi de Monaco. Monaco qui se déplace à Angers dimanche à 17h05. A priori, un match quand même
L'Angevin.
Assez simple pour les monégasques vu les performances d'Angers ces derniers temps. Et Monaco se cache de moins en moins. Là, ça y est, ils visent la Ligue des Champions, c'est officiel.
Alors, c'est vrai que certaines langues se délient à Monaco à l'approche de cette fin de championnat. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, quelques jours même, il était hors de question de parler de Ligue des Champions tant que la quatrième place n'était pas mathématiquement assurée. Maintenant que c'est fait, le discours a changé. Comme promis, on parle de podium, mais pas encore de titre. Être champion de France est un rêve, a expliqué cet après-midi Djibril Sidibé. Je vous propose de l'écouter.
On vise vraiment, entre guillemets, une place vraiment directement en Ligue des Champions. On sait qu'il y a des équipes qui sont devant nous. Maintenant, chaque histoire a son match et puis personne affiche tout haut que oui, il faut qu'on gagne le championnat. Ça reste un rêve, donc on est attentif. On verra si à la fin, il y a moyen de faire quelque chose.
Alors Djibril Sidibé, il a connu le titre en 2017 avec l'AS Monaco. Ça a été le premier cette saison à avouer ouvertement, publiquement, que la Ligue des Champions était un objectif. C'était après la victoire à Saint-Etienne, alors que le sujet était encore tabou. Cette fois, il parle non pas de podium, mais de place directement qualificative en Champions League, à savoir la deuxième, même si la troisième pourrait être en fonction de qui remporte la Ligue Europa. En tout cas, Monaco se cache moins. La victoire à Lyon mercredi dernier a peut-être envoyé un signal aux concurrents, même si Niko Kovac cet après-midi a estimé que la Coupe de France était différente du championnat et que le Monaco-Lyon du 2 mai prochain ne ressemblera pas à celui de cette semaine. Il s'est pas étendu sur ce prochain rendez-vous car il a assuré que l'ensemble de son groupe était focus sur le match face à Angers dimanche, ce genre de rencontre qui pouvait s'apparenter à un match piège en début de saison mais qui aujourd'hui semble laisser peu d'espoir à des Angevins à la dynamique complètement inverse. Quelques petits chiffres pour vous montrer l'écart énorme entre ces deux équipes. Eh bien Monaco, c'est 6 succès de rang toute compétition confondue, 8 clean sheets consécutifs, 14 buts inscrits sur ses 4 derniers matchs de Ligue 1, et Angers, c'est 3 défaites de rang et pas des moindres avec des scores fleuves.
Ils ont raison de se cacher comme ça, Monaco.
Il est bon, Clément. J'y crois au titre de Monaco.
Non, mais tu les as vu jouer, Nico. Ça fait la différence.
Moi, j'y crois. Moi.
Non, mais
même moi, j'y crois.
Se cacher, ils peuvent plus se cacher vu la série où ils sont passés.
Ouais, mais ils se cachent un peu. Ils n'en parlent pas. Ils font des faux modestes. Bah,
tu peux pas annoncer du jour au lendemain. Ça y est, on joue le titre. Bah, bien sûr. Parce que je pense que à l'intérieur du groupe ils se sont mis comme objectif de finir le plus haut possible. Qu'en effet la quatrième place, du moins être dans les quatre premiers, c'était très important pour eux. Donc ils ont avancé caché une grande partie de la saison et aujourd'hui ils ont les bons retours parce que la série est impressionnante. Ils sont à 5 journées de la fin et là on rentre enfin dans la dernière ligne droite. C'était pas il y a 5 journées. Là on est à 5 journées de la fin, donc le moindre faux pas, surtout quand t'as un championnat aussi serré, ça peut être définitif. Donc Monaco doit aborder ce match à Angers en essayant bien sûr d'aller le gagner. Ils ont cette ambition là. C'est vrai qu'avant le coup tu te dis que le rapport de force il est quand même largement en faveur de l'AS Monaco, mais attention parce qu'il va y avoir une équipe à réaction, parce qu'ils ont pris des bonnes fessées là ces derniers temps, dont une mercredi soir à Angers. Ouais. Donc ils vont essayer de mieux défendre. Monaco vient de se qualifier à Lyon. Il y a aussi la satisfaction de s'être qualifié. Il faut se remettre dans le bain dimanche. Ça ne sera pas un match facile. Attention, c'est un pour moi, il est encore là, le match piège pour Monaco. On dirait
Zinedine Zidane qui parle.
Non, mais pourquoi? Mais on est amis de toute façon.
Ils vont gagner,
je te dis que c'est un match qui est plus compliqué qu'il n'apparaît pour Monaco à Angers. Donc, méfiance. Après, ce groupe a toujours été surprenant. Moi, je voulais revenir juste sur la déclaration de Sidibé, que je trouve très lucide. Mais encore une fois, Sidibé, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et moi, j'ai envie d'en parler. Quand je vois le match, par exemple, mercredi soir de Dubois et le match de Sidibé qui joue au même poste, excuse-moi de penser que Sidibé est meilleur que Dubois et que Sidibé mérite beaucoup plus une sélection en équipe de France et pourquoi pas faire l'Euro que Dubois.
Alors Sidibé, c'était pas gagné d'avance.
Je trouve très bon.
Il joue beaucoup dans une défense à 3. Toujours arrière droit.
Qui ça?
Ça dépend. Il tourne.
On a Clément.
Il n'y a pas vraiment de système en fait avec Niko Kovac. C'est qu'il joue à 3 comme il joue à 5 derrière. Sidibé occupe à la fois l'axe et à la fois le côté droit. Et c'est ça qui perturbe l'ensemble des coachs quand on les voit en conférence de presse d'après match. C'est difficile de jouer contre Niko Kovac. Ils nous disent non, de jouer contre ses joueurs non, mais de jouer contre son système oui, parce que les joueurs vont partout. On ne sait pas vraiment comment ils jouent. Donc il y a beaucoup de mouvements autour de ça. Juste pour revenir rapidement sur Sidibé, c'est vrai qu'il a été très bon en conférence de presse cet après-midi. Il parle toujours très bien. Toujours très bien, mais a évoqué des choses très intéressantes sur le fait que notamment il avait senti que Niko Kovac avait transformé ses joueurs, qu'avant c'était peut-être pas des agneaux mais que ce sont devenus en tout cas des loups, et que lui retrouve aujourd'hui à l'entraînement une intensité aussi forte que celle qu'il a connue en première ligue. Ça l'a assez impressionné au début et il trouve qu'aujourd'hui c'est bénéfique parce que ces joueurs, cette équipe est capable à l'heure de jeu, après 70 minutes de jeu, de prendre déjà l'ascendant physiquement sur ses adversaires.
C'est pour ça que je te dis ça sur Sidibé. Et je reste convaincu que quand lui est bien physiquement, et c'est le cas actuellement, intrinsèquement il est plus fort, c'est un meilleur défenseur que Dubois, et c'est aussi, ça peut être un bon contre-attaquant.
Alors on va parler,
en sachant que Dubois n'est pas non plus un immense joueur,
c'est lui qui est la préférence en numéro 2 derrière Pavard en équipe de France. Moi je trouve ça incroyable. Après c'est le choix de Didier Deschamps, je suis pas sélectionneur, mais aujourd'hui quand tu compares les deux, je suis désolé.
Nico Paolorsi à Bordeaux, Bordeaux qui se déplace à Lorient. Alors là on est loin de la course au titre évidemment, c'est dimanche
qu'est-ce
à 15h.
Quand j'entends tous ces correspondants qui jouent le titre.
Pour l'instant, Bordeaux est 16e. 4 points d'avance sur Lorient, 17e. C'est donc un match capital pour le maintien.
C'est le jour de Ben Arfa.
Dans un contexte, en plus, on a parlé des 18h dans Rotten Régal. Très, très compliqué, évidemment, Nico.
Oui, alors je vais essayer d'être meilleur que la semaine dernière parce que je vous avais vendu une réunion des clics et ils ont pris 3-0. Donc on va essayer d'être un peu plus costaud. Non, mais alors, bon, bien sûr, les événements d'hier font que ça bouleverse un petit peu la préparation du match. On l'a dit, les Girondins sont partis en stage à Lorient hier. hier après-midi pour se mettre au vert, pour vivre ensemble. C'est ce que nous a dit Yacine Adli. Ils ont besoin de vraiment recréer des liens entre eux. Même si Yacine Adli nous a dit hier en conférence de presse, faut pas croire tout ce qui est sorti dans la presse. C'est pas Bagdad dans le vestiaire. Il y a pas de bagarre. Il y a des joueurs qui vont pas partir ensemble, mais ça c'est en vacances. Mais ça c'est le cas dans tous les groupes. Il a dit c'est pas l'anarchie non plus. Hein. On parle de clan. Il nous a même fait on parle de clan, mais c'est pas Koh-Lanta. Donc voilà, Yacine Adli. D'ailleurs, pour un jeune joueur de 20 ans, a eu un vrai discours de capitaine.
Ouais, il parle bien. Bah après, il faudrait peut-être qu'il soit meilleur, quoi. Mais il parle bien.
Ah bah franchement, pour le coup, Jérôme, je te trouve dur parce que c'est pas le joueur le plus décevant aux Girondins, sachant que c'est sa première vraie saison en pro
la concurrence est rude.
C'est ce que j'allais vous dire. Mais pour voir tous les matchs des Girondins et les commenter, je peux vous dire que Yacine Adli, c'est plutôt une bonne surprise cette saison.
Une bonne surprise.
Moi, je trouve que c'est un joueur intéressant.
Comme t'as dit Jean-Michel, l'équipe, elle est tellement naze que les joueurs sont pas à leur niveau, ça c'est sûr. Je suis désolé, si on s'enthousiasme aujourd'hui à dire Adli, c'est une. Franchement, il lui manque tellement de choses. Lui présenté comme une future pépite par certains en sortant du Paris Saint-Germain, je suis désolé, il en est loin. Hein.
Bon. On laisse il affiche des qualités de leader qui peuvent être intéressantes pour l'équipe.
En plus, c'est un leader.
Nico,
vas-y,
arrête, s'il te plaît. Nico, s'il te plaît. J'ai regardé le match de. C'était dimanche, le 3-0.
Contre Monaco,
ouais. Parce que j'en vois tellement. C'était dimanche. Mais c'est une équipe qui n'a ni leader, ni âme, ni quoi que ce soit.
Mais ça, je suis d'accord avec toi, Captain.
Non, ne me parle pas de leader avec les magasins.
Pour les Girondins de Bordeaux, les gars, essayez de transposer un petit peu. Je vous dis pas que Adli c'est un grand joueur en Ligue 1 actuellement, mais pour cette équipe-là, c'est quelqu'un qui fait du bien. C'est un jeune qui fait le lien entre les anciens et les jeunes du groupe.
Que ça soit un bon mec,
sur le terrain, moi je vous le dis. En plus, il a fait des stats. Bon, c'est le meilleur passeur de Bordeaux cette saison.
Ouais, combien de passes? Vas-y, fais-nous rêver.
Trois.
Fais-nous rêver. Vas-y.
Je crois qu'il en est à 5. Je vais arrêter de venir sur ce multiplex.
On va te faire des wildcards.
Voilà, ouais, t'aurais pas dû parler d'Adli. Voilà, tu le sauras maintenant pour la prochaine fois.
Écoutons Jean-Louis Gasset, parce que on a encore parlé à Jean-Louis Gasset de son avenir.
Investi, donc vas-y.
Et Jean-Louis Gasset, ça l'a un peu agacé quand on lui a parlé de son avenir.
On l'écoute.
Je finis cette saison. Laissez-nous finir notre travail. Essayons de travailler dans le respect, parce qu'il faut respecter les gens. Faut pas, quand les gens sont un petit peu affaiblis par une mauvaise série, oublier qui ils sont et ce qu'ils ont fait dans le football. C'est tout. Un peu de respect. Je demande un peu de respect. C'est tout ce que je demande.
Voilà, Jean-Louis Gasset qui effectivement a mis les points sur les i, puisqu'il y avait beaucoup de rumeurs pour le remplacer à Bordeaux.
Mais attends, franchement, là je réagis juste une seconde, mais quand il nous demande un peu plus de respect, oui, par rapport à l'âge qu'il a, bien sûr qu'il faut respecter cet homme-là, mais je suis désolé, quand il nous dit, ouais, par rapport à ce que j'ai fait dans le football, c'est pas Capello, hein.
Le tour des stades, 4 infos, une info chacun dans ce multiplex de Rotten Regal. Vous connaissez la musique. Djibo d'abord, une info sur Lens, Lens-Nîmes dimanche 15h, surtout... parce qu'il y a un joueur important qui ne sera pas là.
Ouais, c'est Gaël Kakuta qui est positif au Covid. On ne sait pas si Cheikh Doucouré reviendra. Il y a encore d'autres absents importants, Sotoka et Michelin qui sont blessés, trop juste en tout cas, Banza et Fortes qui sont suspendus. Allez, trois bonnes nouvelles, Seko Fofana, Jonathan Grady et Medina qui reviennent dans le groupe.
Edouard, est-ce qu'on sait contre qui Memphis sera suspendu avec ce carton jaune reçu cette semaine?
Oui, face à Lorient, hein, c'est officiel, même si Rudy Garcia en conférence de presse a quand même encore utilisé le terme de a priori, ce sera Lorient. Donc on rappelle, hein, il a pris 3 cartons jaunes en 10 matchs. Le troisième, c'était mercredi face à Monaco. Il y avait un questionnement parce que ce match, c'est la Coupe de France, donc sous l'égide de la FFF, pas de la Ligue de foot. Le temps que les dossiers se transmettent, mais ça sera bien le match face à Lorient le 8 mai à 17h au Groupama Stadium.
Et donc, ça, c'est l'avantage d'avoir Jean-Michel Aulas.
Clément, une info sur le groupe de l'OGC Nice qui accueille Montpellier dimanche à 13h.
Avec Miziane Maolida, fin de saison, hein, l'ex-lyonnais, il va se faire opérer de l'adducteur et donc sera pas disponible jusqu'à la fin de la saison. C'est ce qu'a affirmé Adrien Urcia, qui sera également privé dimanche contre Montpellier. Damien Gouiri, coup dur quand on sait que Nice n'a jamais gagné sans lui. Les Aiglons pourront compter en revanche sur leurs Algériens Youssef Attal et Hicham Boudaoui, aptes à démarrer selon Urcia.
Et Nico, est-ce que tu as des infos sur la compo des Girondins? Est-ce que Adli va jouer?
Ouais, vous voulez pas que je parle de Yacine Adli là? Oui, il devrait jouer d'ailleurs Yacine Adli. Non, mais il y a surtout un retour important dans le groupe. C'est Samuel Kalou, l'ailier nigérian, qui est un joueur de percussion. Et c'est vrai que Bordeaux n'a pas ce profil-là. Donc lui, ça peut faire du bien.
Lui, pour de bon, je pense qu'il a du potentiel.
Merci.
Il a du potentiel, mais il est très souvent blessé. Donc retour de Kalou et attention, Nicolas Depriville incertain. Ça peut être un coup dur pour les Girondins.
Merci beaucoup, Nico. Merci.
On sentait bien.
Bonne soirée.
Merci. Merci Edouard, merci Clément.
Salut à tous.
34e journée à suivre avec vous.
Salut les gars.
Sur RMC, bien sûr, tout ce week-end. À bientôt dans Rotten Régal. Allez, tout de suite, le multiplex européen. On parle de Benzema et de Manchester City. À tout de suite.
RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. François
Pinet,
Jérôme Rotten.
19h33 sur RMC, toujours dans Rotten Régal. Dernière demi-heure, c'est le multiplex étranger.
Exactement. Mais
avec Julien Laurence et Fred Hermel, bien sûr, les deux meilleurs correspondants
bien
étrangers.
Sûr. N'oubliez pas de vous inscrire pour le quiz aussi de Rotten Régal. Hein. 32-16, bien sûr, c'est toujours
bien
un grand
sûr,
moment.
Bien sûr.
Le multiplex européen, on y va.
RMC, Rotten Régal.
Multiplex européen.
Ah, faudrait qu'on retrouve un commentateur écossais là, avec un but de Jérôme à Glasgow.
Bah ouais. Bah, bon courage. Hein.
On va chercher ça.
Il ne doit pas y en avoir 15 000 dans les archives. Hein.
Avec Fred Hermel qui est là ce soir.
Ouais, t'as raison.
Salut Fred.
Hola Chico.
Salut Fredo.
Salut les garçons.
Et Julien Laurence est là. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Julien, on va parler avec toi bien sûr de City à 5 jours du match face au PSG. Je crois qu'il y a une nouveauté sur Kevin De Bruyne. Donc
bah oui,
reste bien avec
nous. Caméra
isolée. Mais on va commencer par l'actu du Real Madrid. Cette semaine, le Real s'est imposé à Cadix 3-0 grâce à un doublé de Karim Benzema. Benzema qui survole la Liga, ça on l'a dit. Oui, une place décisive. Excuse-moi d'avoir oublié ça.
Ah bah non, mais si on est les meilleurs, comme dit Jérôme, on donne tout.
Exactement.
On en a parlé d'ailleurs hier dans l'after sur RMC avec Karim Jaziri, son agent. Est-ce que Benzema veut revenir chez les Bleus, voilà la réponse de Karim Jaziri.
Aujourd'hui, tu me demandes s'il reviendrait ? On parle du summum du foot, la sélection nationale.
Donc il revient.
Il est prêt depuis 6 ans.
Donc là, s'il appelle demain, il vient.
Il vient. Ça fait 6 ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot, Karim. Il aime s'associer avec les gens, faire des passes, marquer. Il aime gagner. Il n'y a aucun joueur qui a joué avec lui. Il ne peut pas dire « je ne veux pas jouer avec lui ». Je te dis, je suis venu ici pour te dire et pour le dire et qu'ils l'entendent. Karim ne lui en veut pas de ne pas avoir tenu sa parole de l'année à l'Euro.
Deschamps lui en veut de deux, trois trucs.
Et imaginons si Karim, il appelle Didier. Moi, je peux lui dire, je lui ai demandé. Karim, il me dit, c'est le sélectionneur, je vais pas appeler pour supplier d'être sélectionné. Non.
Voilà, Karim Jaziri, c'était hier dans l'after. Fred, c'est vrai que, bon, on le sait sans doute, et toi aussi tu vas peut-être nous le confirmer, que Benzema, bah, il a envie de jouer dans cette équipe de France. On se dit, quel gros gâchis, quel immense gâchis sans doute aussi en Espagne.
En Espagne, dès qu'il y a une liste de Deschamps, on se demande pourquoi il n'y a pas Benzema. Parce que Benzema n'a jamais été aussi fort. Ça, je répète ça toutes les semaines, mais c'est la réalité. Ce qu'il a fait contre Cadix, à Cadix, dans un contexte un peu compliqué, hein. Le Real Madrid était un peu bousculé hein, par toutes ces histoires, la Super League, etc. Après la trahison des Anglais. C'est un petit message rigolo à mon ami Julien, bien entendu, c'est pour rigoler. Le contexte était très compliqué et Benzema a fait un match exceptionnel encore une fois. Et donc, c'est vrai que Karim Benzema n'a jamais dit, ni publiquement, ni moi, j'ai quand même beaucoup parlé avec lui en privé, qu'il ne voulait pas revenir en équipe de France. Il a toujours eu envie de revenir en équipe de France.
Oui,
son agent historique l'a dit. Après, la situation, elle est pas facile. On sait que c'est un problème entre Deschamps et Benzema. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge là, parce qu'il y a quand même un message. On sait très bien que Karim Jaziri ne parle pas comme ça par hasard, mais qu'il exprime la pensée de Karim Benzema. Et j'insiste, Benzema n'a jamais dit qu'il renonçait à l'équipe de France. Vraiment, parce que...
Il y a une position qui me gêne sur Jaziri. Benzema, on ne lui demande pas d'appeler Didier Deschamps pour en disant
j'ai envie de revenir,
j'ai envie que tu me sélectionnes. Il faudrait qu'il l'appelle pour s'expliquer et éventuellement si on peut considérer et on doit considérer qu'il y a une faute ou en tout cas une complicité dans les fautes qui ont été faites, juste s'excuser et puis c'est tout.
Je crois que Karim Benzema a dit, c'est ça le problème.
Il est là donc c'est la quadrature du cercle. Donc
oui.
Parler du retour de Benzema tant qu'il n'aura pas fait un pas, et tu sais, de temps en temps, même si tu n'as rien à te reprocher, t'excuser.
Ça a été fait un peu hier soir, non? Le message, non, là, non, mais, hier non, soir, non, il se passe quelque non, chose
là-dessus,
dans
là-dessus, non. Non, mais je suis d'accord avec toi, Fred, sur ce qui, le discours de son agent. Maintenant, ça reste le discours de son agent.
Non, mais on sait très bien que c'est la pensée de Karim.
Oui, non, mais sauf que qu'est-ce qui empêche déjà Karim Benzema de communiquer de la sorte, de la même façon que Karim Jaziri l'a fait hier? Et qu'est-ce qui empêche Karim Benzema, quand tu vois depuis... Et c'est pour ça que ça s'arrangera jamais, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut sur cette affaire-là, que c'est une affaire d'homme entre les deux, qu'il y a peut-être des propos de Karim Benzema qui ont été mal interprétés par Didier Deschamps, mais Didier Deschamps a vécu, et on le sait tous, qu'il a vécu des menaces, et c'est allé très loin sur sa famille et tout ça, et que c'est sûr qu'il lui en tient rigueur à ça, parce que c'est venu de Karim Benzema. La faute, au départ, c'est bien Karim Benzema qui l'a faite, c'est pas Didier Deschamps, hein, l'histoire avec Mathieu Valbuena. Après, qu'il soit fautif, pas fautif, j'en ai rien à faire. C'est cette affaire-là qui a tout déclenché. Et en fait, si le joueur Karim, moi, que je trouve incroyable, comme tout le monde, on est tous unanimes à dire que c'est un joueur et qui est encore plus fort ces dernières années et ces derniers mois, mais si lui pense qu'il n'a pas fauté et qu'il n'a pas à s'excuser, excuse-moi de penser qu'il fait une grave erreur et que ça pourra jamais s'arranger. Tu peux faire toutes les communications du monde. Jean-Michel vient de te dire, il attend Didier Deschamps, et il attendait, maintenant je pense que c'est trop tard, il attendait juste un appel, qu'il se voit ou qu'il se rencontre et qu'il parle de cette affaire-là. J'ai mal compris ça, pourquoi t'as ça, tu vas communiquer comme ça, et comme ça peut-être que ça va arranger les choses. Et là, j'en suis persuadé qu'il aurait été de nouveau sélectionné. Mais malheureusement, il ne l'a jamais fait. Et ça ne peut pas s'arranger.
Voilà. Bon, un petit mot aussi du Real Madrid qui va jouer contre Chelsea en Ligue des Champions. Entre-temps, il y aura un match contre le Betis Séville demain, 32e journée de Liga. Hazard va revenir dans le groupe. Hein. Ça, c'est important quand même.
Et ouais, alors ça, c'est important parce que on va dire que Zidane et les médecins et Hazard ont un peu changé la méthode. C'est-à-dire qu'après toutes ces blessures, ils prenaient un peu de temps quand même, même un peu plus que pour les autres, pour pas qu'ils se blessent. Là, ils ont pris un mois. Ça fait un mois qu'ils s'entraînent avec le groupe avant d'être convoqués. C'est-à-dire qu'aussi, il avait beaucoup de matchs très importants où on n'allait pas lancer Hazard contre Liverpool en Ligue des Champions. Mais ça veut dire que là, il y a eu un traitement. Ils ont essayé
pris le temps.
Ils ont vraiment pris le temps. Et là, Hazard semble être vraiment très, très bien. Avec un risque de rechute qui semble
minime.
Jamais nul, mais minime en tout cas. Parce que là, si ça fait un mois qu'il s'entraîne vraiment à fond avec ses partenaires, il n'y a pas de problème. Donc, qui sait
ça peut être la bonne surprise à la fin de saison. Ça,
j'imagine. Vous rendez compte si Hazard élimine Chelsea?
Et pour l'Euro de la Belgique.
Imaginez que Hazard élimine Chelsea quand même. Hein. Pour Julien Laurence et pour les Blues, ça va faire mal.
On lui souhaite.
C'est-à-dire qu'il y a le match aller et puis il y a le match retour aussi. Donc même s'il n'est pas encore parfait pour le match de mardi, le match de mercredi de la semaine d'après, là, ça peut être un élément décisif. Alors, je pense qu'il ne peut pas être titulaire aujourd'hui, surtout que Vinicius va bien, on sait que ça marche bien, etc. Mais qu'il peut être à un moment dans cette double confrontation importante. Donc, c'est une très très bonne nouvelle.
Mais on a beaucoup de respect pour Vinicius, ce qu'il fait, il a progressé et on le voit. Maintenant, Hazard, à 100% de ses moyens, reste un joueur fabuleux.
On attend de voir, de retrouver Julien, le Hazard de Chelsea, effectivement. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Julien. Pep Guardiola était en conférence de presse avant la finale de Coupe de la Ligue. C'est contre Tottenham demain, donc pour Manchester City. Et il y a encore des infos supplémentaires sur De Bruyne ou pas? Tous les jours, une info.
Ah bien sûr. Après-demain la finale, dimanche.
Ah oui, après-demain. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est demain parce que je me dis qu'ils ont le même temps de préparation que le PSG, mais pas du tout.
Ils jouent le dimanche, les Anglais. Ça y est, ils rejouent. Avant, on jouait pas le dimanche en Angleterre, mais
non. Mais là, la finale de la Coupe de la Ligue, effectivement, est dimanche. La très bonne nouvelle, c'est que Kevin De Bruyne a repris l'entraînement, comme Sergio Aguero.
Déjà.
D'ailleurs, même si avec Aguero, pour les deux, on est très prudent, côté City et côté Pep Guardiola surtout. Encore une fois, on l'avait dit hier, on le répète. La grosse peur de Pep Guardiola, c'est une rechute. Forcément pour Kevin De Bruyne et cette douleur, cette blessure à la cheville, comme Jérôme l'avait bien expliqué cette semaine aussi, s'il peut passer outre la douleur, que ce soit lui tout seul en serrant les dents ou alors avec un petit peu d'aide d'une infiltration médicale. Par exemple médicale, exactement Captain, ça pourrait le faire. Encore une fois, pas dimanche je pense, ou en tout cas pas comme titulaire, mais pour la semaine prochaine contre le PSG et ce match aller, là ça devrait être une autre histoire effectivement. Donc à voir, mais c'est une très bonne nouvelle effectivement de revoir Kevin De Bruyne avec le reste du groupe.
Ah oui, non, c'est une super nouvelle et moi j'ai envie qu'il soit sur la pelouse parce que j'ai envie de voir les meilleurs joueurs. D'ailleurs, j'en salive d'avance d'aller commenter ce match-là, vraiment ça va être fabuleux et bien sûr que Oui, c'est, on a, non, mais c'est vrai.
Au commentaire.
Aussi, mais c'est une vraie chance, en tout cas, d'être au commentaire de cette rencontre-là, cette double confrontation.
Qu'est-ce que t'aurais aimé, quoi? Le commenter, ce match?
Oh, là, t'es pas nostalgique, t'as fait ton temps. Attends,
on a commenté des grands matchs,
pendant 40 ans, t'as commenté tous les matchs.
Oui, j'ai commenté Rennes-Guingamp, j'ai commenté...
Mais oui.
Oh là là, tu vas nous faire pleurer, Captain.
Et commenter la Super League, Jean-Michel, t'aimerais bien... C'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. Oh là là, c'est...
Bah, si tu me fais un petit chèque,
si je serai dans un drôle d'état lorsque la Super League disputera...
Oh.
Attends, elle est en stand-by.
Oh, la mauvaise herbe, tu sais, Jean-Michel.
Ouais, mais bon, son état peut se dégrader en un an, hein, à 74 ans.
Julien, juste un mot sur...
Donc t'es vacciné, Jean-Michel.
Face à Tottenham. Le City face à Tottenham, est-ce qu'il va faire tourner en prévision du PSG ou est-ce qu'il va jouer à fond cette finale de Coupe de la Ligue? Comment il est, Pep Guardiola?
Je pense qu'il va la jouer à fond, bien sûr. C'est le premier titre de la saison ici en Angleterre. On sait qu'ils ont été éliminés de la Coupe d'Angleterre le week-end dernier par Chelsea, eux qui rêvaient de ce fameux quadruplé que personne n'a jamais réalisé en Angleterre. Donc il va la jouer à fond, mais quand Pep Guardiola joue quelque chose à fond, ça ne veut pas forcément dire qu'il va mettre sa meilleure équipe. On sait qu'il s'adapte aussi, pas forcément au calendrier, mais à sa façon de voir un match, à sa façon de voir une finale dans ce cas-là. Donc c'est possible aussi qu'ils nous surprennent encore un petit peu avec ses choix, mais dans leur esprit, ils y vont pour la gagner. Ce serait la quatrième fois de suite qu'ils remportent cette Coupe de la Ligue. Personne n'a jamais fait ça, forcément. Ce serait la cinquième fois en 6 ans aussi. Ils n'ont plus perdu depuis 2016. C'est assez simple. En finale en Coupe de la Ligue et encore plus en finale. Pour Tottenham, ce serait le premier titre depuis 2008 qui était déjà une Coupe de la Ligue avec Ryan Mason, donc le jeune entraîneur, ancien joueur du club, qui entraînait la réserve, qui a pris la place de José Mourinho jusqu'à la fin de la saison, qui a gagné son premier match contre Southampton en championnat il y a quelques jours. Mais c'est vrai que c'est une tâche quand même assez incroyable pour lui, ce jeune entraîneur, d'affronter Pep Guardiola en finale d'une Coupe de la Ligue qui est vraiment la compétition de Manchester City. On fait bien sûr de City le grand favori de cette finale, mais sur un match, tu sais jamais.
Okay. Tottenham City, donc ça sera la finale de Coupe de la Ligue qu'on suivra sur RMC évidemment, puisque ça sera à quelques jours de la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. Ouais. Merci beaucoup Julien. À très bientôt. Tu vas être sollicité ces prochains jours.
Oui, on va le voir.
Merci Fred.
Moi, ce sera pour la finale.
Merci Fred.
Ouais. Ah, parce que le Real Madrid joue quand même la Ligue des Champions, ça les intéresse?
Bah, c'est l'UEFA. Mais l'UEFA, alors l'information aujourd'hui, l'UEFA dit qu'il n'éliminait pas le Real Madrid.
Ah, bah oui.
C'est le football populaire, tout ça, c'est important, la défense des valeurs de l'UEFA.
Bah, oui, enfin,
mais bon, les revenus liés à la Ligue des Champions, on va pas se priver de celui qui en a gagné 13 quand même.
Ah, hein, oui. Bah, t'as raison.
Jean-Michel, on se comprend, toi et moi.
Allez,
bien, bien sûr.
Salut Fred. À bientôt. Allez, on revient dans Rotten Régal pour le grand moment. Le quiz de Rotten Régal, c'est à peu près au niveau de la Super League. Hein, le quiz de Rotten Régal. À tout de suite.
RMC. 18h-20h. Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
19h48, allez, dernière ligne droite, toujours sur RMC, bien sûr, dans Rotten Régal. Il reste 10 minutes. Et 10 minutes, ça veut dire quoi? C'est l'heure du quiz.
C'est l'heure du quiz, on y va tout de suite.
RMC, Rotten Régal.
Donnez-moi un milieu du PSG hors Verratti.
Hors Verratti, Draxler.
Non.
Coucou.
Oui, coucou Jean-Michel. Non, c'est pas ça.
Coucou.
Le quiz.
J'avais raté celui-là. Magnifique. Magnifique. On est avec Alexandre qui a fait le 32-16. Salut Alexandre.
Salut Alexandre.
Salut les gars.
Alors, tu veux être supporter du PSG. Tu veux jouer avec qui, Captain ou avec Jérôme?
Ah, je vais être obligé de prendre le dieu vivant. Le meilleur pied gauche de toute la planète.
Ouais, Alexandre, bien sûr, t'as raison.
D'accord.
Bah, moi, je suis pour les gagnants, désolé Jean-Michel, mais moi, je veux gagner ce soir.
Mais voilà. Oui, bien sûr. Attention. À mon avis, elle a un bel auditeur, Jean-Michel.
Il a révisé. Tu seras avec Pierre, Jean-Michel. Ah. Salut Pierre.
Salut.
Salut Pierre.
Ça va?
Oui, ça va, oui.
Bah, Pierre, désolé. Je me souviens, avait gagné un quiz, je crois, il me semble. Hein.
Mais pas avec Jean-Michel. Ouais, oui. Donc là, tu joueras avec Jean-Michel.
Désolé pour toi,
Pierre. Gagné, effectivement.
Alors, on y va. Pour ce quiz, on va commencer par un qui a dit. Au début, je me suis dit que c'était une blague en parlant de la Super League. La culture du sport en Europe n'est pas la même qu'aux États-Unis. Non, les 12 clubs ont eu tort.
Henri?
Non.
Cantona.
Dans notre culture, tout se construit sur le mérite sportif. Et si vous êtes une meilleure équipe et que vous gagnez,
Klopp.
Vous jouez dans la meilleure compétition. Ils ont eu tort, tant pis pour eux. C'est un entraîneur. Non. C'est un entraîneur qui ne peut aimer que la Ligue des Champions parce qu'il l'a gagnée. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur.
Tourelle.
Ah non.
Ancelotti, pas de Pierre. Si, 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 Carlo Ancelotti, ah oui, Ancelotti. Effectivement, qui a gagné avec le Milan et le Real.
Tu n'as pas parlé des États de l'Amérique, là ? Qu'est-ce que tu m'as parlé ?
Non, non. Oui. La culture du sport en Europe n'est pas la même qu'aux États-Unis. C'est la phrase d'Ancelotti aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il a Everton Pierre. Et il s'est exprimé sur la Super League. Allez, puisqu'on parlait des Girondins de Bordeaux, monument en péril, on va en parler un petit peu. Qui est le meilleur buteur du club cette saison ?
De Préville
Non.
Wang.
Wang, bonne réponse, Wang. Alexandre.
Bien joué, Alexandre.
Un par aussi. 11 buts.
Avec toi, merde.
Bah ouais, je sais, désolé.
Bravo, pour l'instant, ce sont les auditeurs qui font le quiz. Hein. Qui a été la plus grosse recrue en termes de tarifs, hein, de montant, des Girondins de Bordeaux version King Street ?
Koscielny.
Non, Bernard Fay, il était gratuit.
Calou,
bonne réponse, Alexandre.
Bien joué, Alexandre.
10 millions d'euros en janvier 2020 en provenance de Reims.
Jérôme, tu dors, merde.
J'avais Koscielny en termes de salaire.
2-1 pour l'équipe, Jérôme Alexandre. Attention, le dernier titre de champion, c'était en 2009 pour les Bordelais. Qui était sur le banc?
Sur le banc.
Laurent Blanc, bonne réponse. C'est Alexandre encore.
Qui ça?
Alexandre.
Laurent Blanc.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Laurent Blanc.
Laurent Blanc.
Ah, c'est Laurent Blanc.
Bah oui, en 2009.
Pourquoi j'ai dit Eli Bob?
Moi, je sais pas, parce que tu dois aimer l'homme à la casquette.
Allez, on va parler de Reims-Marseille.
Non.
Reims-Marseille, c'est ce soir, les amis. Ouais. En Ligue 1. Comment s'appelle le stade de Reims?
Delaune. Le stade de Delaune.
Auguste Delaune, bonne réponse de Jérôme.
Oh,
qu'est-ce que c'est rapide. 4-1. Bah oui, c'est facile, c'était pour toi.
J'ai tellement brillé là-bas.
Qui est le capitaine de Reims?
Capitaine?
Le capitaine de Reims.
Abdelhamid.
Abdelhamid, bonne réponse, capitaine.
Merde.
Il a pour Alexandre.
Eh, hey, du calme, toi, là-bas. Oh.
C'est bon, combien ça fait
4-2. 4-2 pour l'équipe Jérôme Alexandre. Quelle est la nationalité du gardien de Reims?
Slovaque.
Slovène?
Non.
Croate.
Alexandre. Oh, il est à fond, bravo. Ouais. 5 points, c'est Rajkovic.
Ouais, j'avais dit Yougoslave, j'étais pas loin.
Ouais, c'est vrai, c'est lui, la Yougoslavie. Allez, toujours sur Reims. Toujours sur Reims. Quel entraîneur devrait remplacer David Guillon?
Oscar Garcia.
Oscar Garcia. C'est encore Alexandre.
Ouais, ouais.
Mais dis donc, mais t'as révisé ton
c'est rapide. Hein. Wow. Les gars, mais moi, c'est juste que je suis
taquet, quoi.
Bien joué, Alexandre. Gardons un peu la Ligue des Champions, c'est la semaine prochaine.
6 points dans Alexandre, quand même, pour l'équipe Alexandre Jérôme. Bravo. Hein. Allez, une dernière question pour Reims, après, je vous embête plus.
Ouais.
Qui est le meilleur buteur du club cette saison?
Dia,
bonne réponse, capitaine. Bonne réponse.
Ok, tu me fais des.
Boulaïdia, c'est ça.
Dia.
6-3. Lyon-Lille ce dimanche, choc de la 34e journée.
Ouais.
Qui est le meilleur buteur des confrontations dans l'histoire entre les deux clubs? Non. Il a marqué 9 buts.
Lacombe.
Non, c'est plus récent. Il a marqué 9 buts pour Lyon contre Lille.
Lacazette.
Non, c'est dans les années 2009-2010.
Maurice.
Bah, c'est Benzema, c'est Ben Arfa.
C'est un Argentin.
Lisandro Lopez.
C'est Pierre,
c'est Pierre.
Non.
Ouais,
non,
c'est Pierre.
C'est Pierre.
C'est Pierre.
Je demande la VAR.
Il n'y a pas de VAR, on n'a pas les moyens ici. Bon. Ça sera Alexandre, effectivement. Je pense qu'on me dit Alexandre. Ouais. Ça fait 7-3 pour Jérôme et Alexandre. Allez, faut vous remonter là, Pierre et Captain.
Ah oui, mais
c'est
bon.
C'est l'heure de dormir pour Jean-Michel.
2 points en jeu pour la charade. 2 points.
Ah non, pas la charade.
Mon premier est essentiel à la vie.
Oh, je suis nul.
On dit que mon deuxième. Non, pardon. On dit qu'il y a mon deuxième quand il y a un problème. Mon troisième est un poisson tout plat. Mon troisième est un poisson tout plat. Mon quatrième est la meilleure partie du pain. Mon tout est un attaquant qui a joué à Lyon et à Lille.
Loïc Rémy.
Loïc Rémy, bonne réponse. C'est 2 points. C'est 2 points pour Captain. Magnifique.
7-2.
Oui, j'avais prévenu. Comme c'est
7,
difficile.
7,
et ben, ça fait 2 points.
7-5.
Allez, c'est pas terminé.
Et Kadé, qu'il faut réfléchir un peu.
Magnifique. Loïc Rémy. Mon premier essentiel à la vie, c'est l'eau. On dit qu'il y a mon deuxième quand il y a un problème.
C'est
un hic. Mon troisième, un poisson tout plat, c'est l'arrêt. Mon quatrième, la meilleure partie du pain, l'ami. Bravo, Loïc Rémy. Et, pardon ?
Quoi ?
Alexandre. Allez, il reste 1 minute pour égaliser. De qui parle Jesse Lingard, l'ancien joueur de Manchester qui est aujourd'hui à West Ham ? Bravo !
Eh oui.
Bravo ! Tu as vu ? Bravo, 7-6, effectivement, il peut être le prochain rapide. Ballon d'or. Voilà ce qu'a dit Jesse Lingard.
Ah non, mais je suis obligé, autrement je suis en 3 secondes de décalage.
Magnifique. Ouais. Qui a dit Ma priorité, le projet sportif. Ça fait 4 ans que je joue chez les professionnels. J'ai un peu tout vécu ici. Donc je pense que c'est le projet sportif qui me fera prendre ma décision. Le fait de ne pas jouer la Ligue des Champions avec Marseille la saison prochaine, c'est pas un problème.
Camara,
bonne réponse.
Eh oui.
Bonne réponse de Jérôme Rotten. Et c'est la victoire. Et c'est la victoire de Jérôme Rotten.
Je me suis battu comme un lion.
C'était magnifique.
Et Pierre, quand tu es avec Jérôme, t'es bon. Quand tu es avec moi, t'es nul. C'est pas
8 à 6. 8 à 6, c'était un match magnifique.
Merci Alexandre.
Et merci à Pierre, tu reviens quand tu veux, bien sûr.
Merci,
Dis-moi.
Bravo, capitaine.
Alexandre, tu joues avec moi la prochaine fois.
Merci, Jean-Michel.
Jean-Michel, excuse-moi, mais moi, mon Dieu, c'est Jérôme. Je peux pas quitter Jérôme.
Parce que t'es un connaisseur de foot, c'est pour ça.
Je t'enverrai quelques vidéos, tu verras que ce sera plus ton Dieu.
C'est une défaite encourageante, capitaine. C'est une défaite encourageante pour la suite.
Ouais, c'est ça. On dirait Moscato.
Charvet, repose-toi bien, il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine, on aura besoin de toi.
On accueille Christophe Cessieux qui est là pour l'intégrale foot et
les garçons, vous êtes en pleine forme là. Bon week-end qui s'annonce là, Jérôme.
Oui, magnifique.
En plus, commencer comme ça sur une victoire, c'est bien.
Je sais pas qui est plus bronzé entre Jérôme et Christophe.
Christophe a été sur la Côte d'Azur.
Il y a une lutte pour le bronzage là, quand même, pour le plus beau bronzage.
C'est vrai.
Et ce soir, on va s'intéresser à ce match donc entre Reims et Marseille qui va ouvrir la 34e journée. Alors je sais que vous avez parlé de la course au titre, donc on va s'intéresser à la course à l'Europe parce qu'il y a aussi cette 5e place qui intéresse pas mal de clubs. Et puis on s'intéressera également à une autre course, la course à la montée en Ligue 1 avec Wilfried Templier, puis un invité exceptionnel durant cette première heure de l'intégral foot. C'est pas un footeux, c'est un coureur cycliste, Warren Barguil, qui sera avec nous avant Liège-Bastogne-Liège sur Radio dimanche. Voilà le programme.
Dès 20h, l'intégral foot avec Christophe Cessieux. Nous, Jérôme, on se retrouve la semaine prochaine.
On va souhaiter un bon week-end à tout le monde.
Amusez-vous bien sur les vendredis.
Avec Christophe. Et puis à la semaine prochaine, bien sûr, une grosse semaine.
Ouais.